Alors bonsoir Daniel Ben Saïd,
Bonsoir.
merci beaucoup d'être avec nous au téléphone. Ma première question, c'est qu'est-ce qui a présidé à ce dossier sur l'engagement des intellectuels? Quelles en étaient les idées de départ?
L'idée de départ, d'abord, c'est qu'on oscille toujours entre, d'un côté, les protestations contre le bruit que font les intellectuels pétitionnaires quand ils interviennent dans l'espace public, ou alors la déploration, du silence des intellectuels. On a périodiquement l'un ou l'autre grief. Et en fait, c'était d'essayer, souvent sous une forme de dialogue avec Michel Suria, Badiou, Noiriel et d'autres, mais d'aborder plusieurs problèmes. C'est-à-dire, d'abord, un changement de fonction, je dirais presque sociologique, des intellectuels, du fait de la massification même du travail intellectuel et de l'évolution de la division du travail. Bon, la notion n'a pas le même sens et le même contenu qu'elle l'avait au moment où le terme est apparu chez Brunetière à propos de l'affaire Dreyfus et aussitôt incarné et symbolisé par Zola. Donc il y a ce problème-là qu'a exprimé peut-être à sa manière l'opposition scénarisée par Foucault entre l'intellectuel généraliste, maître penseur. Détenteur d'une sorte d'éthique publique, comme l'ont pu être Zola, Sartre et peut-être parmi les derniers Bourdieu, et opposant à cette figure de l'intellectuel représentant une conscience collective, l'intellectuel spécifique qui travaille un petit peu dans les résistances sociales, dans leur spécificité, qu'il a illustré lui-même avec le travail sur les prisons ou sur l'asile. Mais il y a probablement dans cette opposition stylisée, finalement, telle que l'a tracé Foucault, à la fois l'enregistrement d'un changement de paysage, justement, chez les intellectuels, du point de vue social, attesté par ailleurs par l'émergence même, la transformation de la population étudiante. Mais il y a aussi sûrement un moment politique que je compte traiter ailleurs, qui est une éclipse de la politique avec un scepticisme qui s'est développé quant aux grandes causes d'émancipation, aux grands projets d'émancipation à partir du milieu des années 70. Donc il faut faire la part de ce qui est une tendance générale dans la structure même du champ intellectuel et ce qui relève d'un moment politique qui ont illustré des discours, je dirais, dans l'affaissement des années 80 face à l'offensive de la rhétorique libérale. Et on a eu d'un côté une sorte de stoïcisme des résistances, même s'il n'y a pas de projet de déboucher à leur donner l'impératif catégorique de tenir, de ne pas céder à l'air du temps. Et puis, d'un autre côté, c'est d'ailleurs un des thèmes du dialogue avec Badiou, ce que j'appelle l'attente, ou la théologie de l'événement miraculeux qui viendra finalement briser la désespérante routine des travaux et des jours.
Alors sur la page de couverture, on lit « clair » et « chien de garde ». Et ne serait-ce pas plutôt un « ou » qui aurait dû se trouver à la place du « et » d'autant plus que vous avez choisi, c'est plutôt « nisant » votre camp et non pas « benda ».
Oui, fondamentalement c'est « nisant », encore que c'est pour ça que peut-être il aurait fallu, mais enfin c'est déjà un peu pédant, utiliser le recours à la barre du « et ou » qu'on utilise parfois dans les textes, bon, mais peut-être que dans un titre... C'était un peu rébarbatif, mais oui, évidemment, du point de vue, disons, affectif, de l'engagement, parce que je pense que l'engagement, y compris dans ses formes organisées, militantes, politiques, voire partisanes, puisque Nizan, lui, le revendiquait fortement, c'est une sorte de principe de responsabilité pour les intellectuels. C'est justement, si on veut sortir du reproche... du ministère de la parole, etc., qui n'engage pas. Je crois que le collectif, je ne parle pas seulement des partis, ça peut être le monde associatif ou syndical, mais est un principe de réalité, de modestie, surtout à une période où, où la puissance médiatique peut tourner la tête aux intellectuels en leur faisant croire que leurs paroles déterminent le cours du monde. Bon, alors que ce n'en est qu'une petite partie, si tant est que ce le soit. Bon, donc il y a ce problème-là, mais en même temps, je pense que les objections faites à Nizam par Benda, c'est-à-dire les risques quand même d'un relativisme politique ou d'une réduction des principes, et notamment de principes éthiques au rapport de force, était un danger auquel Nizam a pas échappé, quel que soit son pouvoir de séduction, notamment par rapport à un sentiment de révolte face à l'injustice, mais auquel il n'a pas échappé dans son zèle ou son aveuglement fin ou réel. Je pense qu'il y a une part quand même de double vue là-dedans, mais face au procès de Moscou et au stalinisme dont il a fini par être victime. Donc je crois que dans le rappel à l'universalité de certaines valeurs, il y avait chez Benda tout de même une objection qu'on ne peut pas balayer en le traitant purement de mandarin ou d'universitaire académique ou d'idéaliste platonicien comme le faisait Nizam. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, je soulève un peu perfidement la question à l'intention d'Alain Badiou, mais quand Badiou se réclame justement ou revendique l'actualité d'un geste platonicien renouant avec des vérités atemporelles et hors de l'histoire, bon, je dis bien que paradoxalement, lui aussi tend à basculer parfois du côté de Benda contre Nizam.
Vous faites référence au dernier livre d'Alain Badiou, Logique des mondes, où il affirme vraiment cette idée de vérité.
Alors, le dernier, c'est La logique des mondes, donc. Que j'avais pas lu hein, quand j'ai fait l'entretien. Il est sorti juste après.
D'accord.
Je crois que Badiou, lui aussi, est un peu. Bon, je suis fasciné d'un côté par l'ambition.
Démesurée de la chose, mais en même temps, il y a toujours cette idée de vérité qui reste présente et qui est presque à rebours de ce qui s'est pensé dans les années 70.
Ah ben, il est résolument aux antipodes des discours postmodernes, du fragmentaire, du relatif, etc., etc. Ce qui se fait, je crois, la force et l'importance de sa pensée, qu'on y adhère ou qu'on veuille se mesurer à elle, c'est l'ambition systémique, et il a quand même la prétention assez rare par les temps qui courent, de développer une logique, une politique, une esthétique et même une théorie de l'amour. Donc c'est un système tout à fait ambitieux et qui est évidemment accroché à des valeurs de vérité, d'universalité, aujourd'hui très souvent contestées. Alors bon, il a réagi d'une certaine manière, il avait fait à l'époque un brûlot tout à fait outrancier, je pense qu'il s'en mord un petit peu les doigts, contre Deleuze au moment de la sortie du Rhizome. Mais bon, il y avait quelque chose pour moi qui me séduit dans ce refus de céder justement un petit peu au mode idéologique. Et en même temps, je trouve que sa tentative de formaliser dans un système logique, ce qui est le propos de son dernier livre, La logique des mondes, d'insérer la politique dans une espèce de logique axiomatique et formalisée, je pense que ça aboutit par une autre voie, une extinction de la politique. À ce titre-là, je crois que l'effort héroïque à certains égards de Badiou est symptomatique de ce que j'appelle l'éclipse de la raison stratégique depuis la fin des années 70. Peut-être qu'aujourd'hui, vu les événements en Amérique latine, bon, le débat renaît un petit peu de ses cendres, mais je pense que Badiou a cherché une issue et ça a commencé, c'est très clair. Il a publié en 1985 « Peut-on penser la politique ?» qui anticipait sur la chute du mur de Berlin, enfin sur la fin d'une époque, quoi. Et je crois qu'il y a répondu par une sorte de fuite en avant philosophique et logique qui tient lieu de politique.
Eh ben, merci beaucoup, Daniel Ben Saïd, notamment pour cette aparté très instructive sur Alain Badiou.